Vous êtes sur Europe 1, ici Julia et moi, on prend soin de vous chaque matin. La question que l'on va se poser aujourd'hui, le goûter est-il un repas à part entière? Alors je vous la pose en premier à vous cette question, mon cher Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde, quelle belle question, le goûter est-il un vrai repas? Pour moi cette question c'est un petit peu comme si on me demandait est-ce que la licorne est un vrai animal ou est-ce que Clément vous êtes un vrai journaliste? La réponse est non. Non, mais ça y ressemble. En fait pour moi ce n'est pas un vrai repas, sauf quand on est enfant. C'est vrai que c'est le repas préféré des enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de légumes. Enfin, normalement. C'est vrai que personne ne prend des courgettes pour aller à l'école. D'ailleurs, s'il y avait plus de légumes au goûter, il y aurait peut-être moins de raquettes à la sortie des classes. Et toi, là, file-moi ton goûter. C'est quoi, des navets? Non, bah gardez-les, vraiment. Alors, ce que je propose aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu sur l'histoire du goûter. Tout a commencé au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, on se contentait souvent de deux repas par jour. Si vous voulez, le matin, vers 9h, on dînait. Et le soir, vers 17h, on soupait. Après, au lit. C'est vrai qu'entre les deux, on chassait, on combattait, et puis on exécutait les amis quand on n'était pas d'accord avec leur opinion. Donc c'est vrai que niveau dépenses énergétiques, c'était quand même pas mal. Et puis quelques siècles plus tard, Louis XIV instaure à sa cour 3 repas par jour.
On est à Versailles, là.
Il déjeune, évidemment, vers 8h30 le matin. Il dîne vers 13h, le dîner s'était décalé, et puis il soupe vers 22h. Donc lui passe ses journées avec ses prétendantes à jouer, à faire des cache-cache dans les allées florissantes du château de Versailles. Et donc comme 22h c'est tard, bah, peu après, c'est-à-dire pendant la Révolution française, quelques siècles après, on installe vraiment une petite collation vers 15h qui permet d'attendre le souper. C'est comme ça qu'est arrivé le goûter, c'est quand le sucre est arrivé en France. Et sachez qu'en France, nous sommes les champions d'Europe du goûter. Viennoiserie, pâtisserie, petit gâteau, à chacun sa madeleine de Proust. Sachez que les préférés, Mélanie, vous savez ce que c'est?
Les gâteaux au chocolat, enfin...
les pains au chocolat ou chocolatine,
non,
je veux me fâcher
chocolat,
avec personne.
Pain au chocolat, pain au chocolat.
Il y a les deux. D'ailleurs, je sors 2 secondes de cette chronique, mais j'ai une petite technique pour ne vexer personne. Quand vous arrivez sur un lieu de vacances que vous ne savez pas, si vous prenez pain au chocolat ou chocolatine, vous savez comment faire?
Non.
Il faut choisir les deux. C'est ce que je fais, ça fonctionne. Un pain au chocolat, une chocolatine, s'il vous plaît. Tout le monde est content, surtout moi, le gourmand. Alors, la valeur sûre aussi, ce qu'on aime beaucoup et le plus ancien, c'est le petit lu. Le petit lu, c'est plus qu'un gâteau, en fait, et j'ai appris quelque chose, je voulais le mettre dans cette chronique.
Ouais.
Vous prenez le petit lu, le gâteau, ça a 4 coins qui représentent les 4 saisons. Ça a 52 dents qui représentent les 52 semaines de l'année. Et il y a 24 points dessus qui représentent le nombre d'heures dans la journée.
Vous l'avez inventé, ça?
Non, non, c'est vrai. Ce n'est pas un... Je vous jure que c'est vrai. Ce n'est pas un biscuit, c'est une Rolex, en fait, carrément. Ça donne l'heure. Un calendrier. Donc moi, je pense qu'à 50 ans, si vous n'avez pas un paquet de petits loups, vous avez loupé votre vie.
Merci Clément Lanoux pour cette entrée en matière savoureuse, comme un bon goûter. Allez, maintenant, on va écouter nos invités sur ce sujet. Je commence par vous, docteur Patrice Serogue. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste et vous êtes l'auteur de Bien manger, bien vivre, bien vieillir aux éditions InPress. Avec nous aussi aujourd'hui, le professeur Jean-Pierre Corbeau. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes sociologue de l'alimentation, vice-président de l'IEHCA. C'est l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation. Jean-Pierre, je vais commencer avec vous. La notion de 4 heures, le fait de prendre un goûter, c'est quelque chose de relativement récent ou ça existait déjà à l'Antiquité?
À l'Antiquité, je ne sais pas. Enfin, je serais très réservé. Ce qui est sûr, c'est que plus on se rapproche du 21e siècle, plus le goûter apparaît dans nos types de sociétés. Bon. On peut simplement remarquer que les personnes privilégiées goûter plus que les autres.
Oui, c'est un truc de riche.
Quelque part, on a parlé de Versailles tout à l'heure, en introduction. On a des renseignements sur ce que pouvaient manger dans des salons un certain nombre de personnes, et surtout à partir du 19e siècle, quand apparaît la bourgeoisie, disons, là, le goûter va être signifié en tant que tel. Et il apparaît, juste pour finir ma réponse, il apparaît au moment où les boissons se développent, c'est-à-dire le café et le chocolat.
Mais au départ, ce n'était pas une boisson, d'ailleurs, le goûter? Au tout départ.
C'est ça. Mais c'était, plus on va avoir une offre autour du café et du chocolat, plus le goûter, par rapport à des clientèles plutôt féminines ou par rapport à des enfants, va prendre de l'importance dans des catégories, disons, privilégiées, pour faire simple.
Docteur Serogue, quand on évoque le goûter, c'est tout de suite, on a des souvenirs d'enfance qui remontent en tête. Pourquoi il y a cet effet Madeleine de Proust pour ce petit snack de notre jeunesse? Certains l'ont gardé, mais il y a un côté un petit peu, je ne sais pas, une valeur symbolique. Non, moi, ça m'appelle le pain avec un peu de beurre et de la poudre de chocolat dessus. Là.
Oui, non, mais c'est vrai que tous les enfants aujourd'hui prennent un goûter. Et c'est une nécessité physiologique, on va dire. Ils ont besoin d'une collation à un moment de l'après-midi pour pouvoir continuer leur activité de manière sereine. Donc ça reste un souvenir très agréable parce que ces goûters-là, en général, sont plutôt des goûters qui vont être sucrés, sucrés et gras, et donc vont laisser sur le palais une imprégnation tout à fait douce. Et c'est pour ça que souvent, on revient dans notre histoire d'adulte à certains aliments qu'on a consommés quand on était enfant.
Alors ce goûter, Patrick, il a longtemps été réservé aux enfants, mais à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, le goûter, c'est une vraie tradition pour tous, le fameux tea time, non ?
Oui, alors c'est le tea time, effectivement, mais ce tea time-là, il est souvent composé, alors selon les classes sociales, comme disait Jean-Pierre, un petit peu de biscuits, mais dès qu'on va monter dans les classes sociales, on va voir apparaître des sandwichs aujourd'hui avec du saumon, avec des tas d'aliments, en fait.
Des cupcakes.
Ça devient presque un vrai repas, ce qui n'était pas au départ l'histoire.
Le goûter, je crois, Jean-Pierre, ça a été aussi, à un moment donné dans l'histoire, une manière de ne pas gaspiller le pain, je crois.
Oui, enfin, ça a été, c'était initialement... Je dirais, dès qu'on repère quelque chose qui ressemble à un goûter, c'est l'idée, comme le mot le dit bien, de goûter. C'est-à-dire que, justement, il n'y en a pas beaucoup. Et effectivement, on va avoir des émotions gustatives, comme Patrick essayait de le dire tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir une offre plurielle de choses salées, sucrées. Enfin, on y reviendra sans doute au fil de l'émission. Mais en même temps... je dirais, dans les catégories plus populaires, et là je me mettrai un petit peu en porte-à-faux par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je veux dire que ce qui ressemble à un goûter, dans des catégories rurales, existait particulièrement en saisonnier. C'est-à-dire que l'été, quand on était dans les champs, et les enfants étaient dans les champs, on mangeait, et les adultes aussi, mangeaient quelque chose qui ressemblait à un goûter. Et là, pour le coup, le pain, qui ne devait jamais être gaspillé, était consommé, et on mettait sur le pain ce qu'il y avait, c'est-à-dire généralement des morceaux de fromage ou éventuellement, pour les enfants, des confitures. Mais enfin, je pense que c'était plutôt des apports de type protéines animales qui étaient faits au moment de 4 heures quand on était dans les champs.
Patrick, vous étiez déjà venu dans notre émission pour nous parler des kilos émotionnels. Mmh. Est-ce que le goûter, c'est justement pas le repas le plus risqué pour ça, celui où on risque de plus se lâcher justement sur les sucreries notamment ?
Alors, pour un adulte, il faut savoir que... là, on parle des adultes, hein, pas des enfants. Les kilos émotionnels, effectivement, c'est chaque fois qu'en fait, que vous avez une émotion, que vous allez consommer un aliment, en général, gras et sucré, mais parfois salé, pour avoir une compensation, finalement, psychologique au stress que vous vivez. Bon. Alors ça, c'est très fréquent. Mais ce n'est pas une histoire de goûter. C'est une histoire de collation qui
peut venir...
Pour
me donner bonne conscience, moi je vais me dire c'est un goûter, quoi.
Oui, ça peut venir n'importe quand dans l'après-midi. Et puis surtout, en entreprise, ça a beaucoup changé, puisque souvent, les salariés apportent des paquets de gâteaux, des viennoiseries et tout ça.
On a des tiroirs assez remplis dans Bienfait pour vous, hein, je vous le dis.
Et en fait, cet échange qui se fait entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, tout ça, est un acte social et amical et cordial, souvent. Donc tout ça est mélangé aujourd'hui dans cette notion d'émotion. Alors, si en plus vous avez une émotion à ce moment-là, que votre chef vous a
houspillé,
vous allez vous précipiter évidemment sur le paquet.
Tiroir.
Absolument.
Mais moi, je trouve ça bien. Moi, je sais pas, je préfère ça qu'aller fumer une cigarette. Non, c'est mieux un petit goûter quand on a un petit coup de stress.
Oui, mais vaut mieux rien faire. Bon. Respirer par le ventre.
Allez, très bien. Vous restez avec nous et vous qui nous écoutez, faites de même. On parle d'un sujet très gourmand ce matin, le goûter. Que faut-il proposer à nos enfants qui en ont besoin de cette collation ? Et puis pour nous, les adultes, hein, pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer, comment éviter de le transformer juste en gros grignotage qu'on va sentir sur la balance. Pour en savoir plus, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. On tente d'apprendre à composer le goûter idéal aujourd'hui, celui qui redonne un petit coup de peps à nos enfants au milieu de l'après-midi, ou même à nous d'ailleurs. J'en connais d'ailleurs quelques-uns, des accros au goûter qui ne vont plus à l'école. Et pour nous éclairer sur l'intérêt et l'histoire de cette collation, ils sont toujours avec nous, le docteur Patrick Sérogue, médecin nutritionniste, et également le professeur Jean-Pierre Corbeau, sociologue de l'alimentation, vice-président de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation. Alors Jean-Pierre, on mangeait quoi alors au goûter à l'époque et comment ça a évolué au fur et à mesure des années ? On a compris qu'au départ c'était autour du café que ça s'est développé, mais il y avait quoi dans le goûter ?
Je vais vous faire une réponse très nuancée, hein. C'est-à-dire que selon, et ça a été souligné par Patrick aussi tout à l'heure, selon la catégorie sociale à laquelle on appartenait, je veux dire, on ne mangeait vraiment pas la même chose, et je pense qu'il y a des catégories sociales où on ne faisait pas vraiment le goûter. Mmh. C'est-à-dire que le goûter, il faudrait l'ancrer, pour ma réponse, dans ce qu'est la bourgeoisie du 19e siècle. Et dans la bourgeoisie du 19e siècle, je dirais que ce qu'il faut, à travers le goûter, tout en gardant cet aspect goût, c'est-à-dire on a une alimentation qui est diversifiée, etc., quelque part, le goûter va être un moyen de restaurer et de renforcer les êtres fragiles, entre guillemets. Alors là, je vais heurter beaucoup de gens, parce que les êtres fragiles au 19e siècle, c'est les femmes et les enfants. Ah. Et donc, effectivement, les femmes et les enfants sont encouragés à manger au goûter et à déguster des choses qui vont être des choses qui vont... à l'époque, le sucre était très très bon et on va leur donner des choses sucrées pour qu'ils soient plus en forme.
Pour te fortifier, pour vous fortifier.
Même voilà, quitte d'être un peu dodu, c'était pas grave.
Pour vous fortifier, voilà. Alors que dans les campagnes, peut-être, on va vous faire des tartines de rillettes, enfin moi je suis plutôt tourangeau, mais ou un peu de pâté, qui étaient les choses, disons, les plus faciles à se procurer dans l'alimentation rurale.
Donc chez les sucre, bonnes, hein, ouais. Moi j'aime bien le pâté.
Ah, oui, donc le sucre est plutôt chez les riches et plutôt les rillettes chez les pauvres.
Et sur les êtres fragiles.
Sur les êtres fragiles.
Docteur Serog, d'un point de vue, on va dire, physiologique, alors on l'a dit, le goûter, pour les enfants, ils en ont besoin. Vous allez peut-être nous repréciser pour quelles raisons ils ont besoin de se goûter. Il y a plusieurs questions dans ma question. À partir de quel âge on considère qu'un enfant doit goûter? Jusqu'à quel âge c'est important? Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait dedans, dans l'idéal? J'imagine que ça varie en fonction de l'âge de l'enfant. Mais...
Oui, alors le goûter, ça représente quand même un apport énergétique substantiel qui est nécessaire à l'enfant, tout simplement parce que sa dépense énergétique va évidemment croître au cours de l'enfance. On va commencer après la diversification alimentaire. C'est-à-dire après l'âge de 3 ans, il va commencer vraiment les goûters. C'est quand il va rentrer à la maternelle qu'il va commencer les goûters. Parce qu'avant, il a en fait des repas tout au long de la journée un peu, des petites collations en fonction de sa faim.
Une petite compote, un yaourt, hein, parfois quand ils sont tout petits. Mais bon, à la maternelle, c'est important pour apprendre aussi, pour bien apprendre.
Oui, parce qu'en fait, là, tout d'un coup, les repas vont être rythmés. Non pas par la faim, mais par, dirons-nous, le contexte social. Oui. Hein, il est dans un environnement avec d'autres enfants, donc il faut que tout le monde fasse à peu près la même chose, autrement, c'est le foutoir.
Mais qu'est-ce qu'on met du sucre, ouais, quand même.
Moi, je sais que j'ai des petites copines de ma fille qui ont des paquets de chips, hein, dans le sac. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit ce qui est recommandé, non, pour les enfants, quand même.
Non, non. Le goûter qui est vraiment recommandé aujourd'hui, c'est d'abord une boisson et avant tout du lait.
Ah oui, mais sous la forme de fromage ou d'un laitage, quoi, vous voulez dire. Hein,
si les enfants ne supportent pas le lait, on peut très bien manger un fromage, on peut aussi consommer du yaourt.
Et même un petit lait avec de la vanille dedans, vous savez, c'est un peu sucré, là.
Oui, on peut mettre... pour l'enfant qui est petit jusqu'à l'âge de 5 ans, l'apport en sucre ne pose pas de problème.
Jusqu'à 5 ans?
Oui. Jusqu'à 5 ans, il peut consommer des quantités de sucre qui sont souvent plus ou moins importantes en fonction de son activité. Ça ne pose pas de problème. Ce qu'il faut, c'est qu'il va consommer aussi pas mal de lipides, hein, de graisse pendant cette période-là. Et ça ne pose strictement aucun problème, sauf chez les enfants qui sont déjà prédisposés à des surpoids ou d'obésité, dans lequel effectivement, là, on va faire attention. Mais pour les autres, ça se régule très bien. Et puis ensuite, il y a un moment donné où la dépense énergétique va vraiment augmenter de manière considérable. Hein, ça va être au moment de l'adolescence.
Bon. Là, ils prennent des gros goûters. Hein, le paquet de gâteaux, il passe en
ça
général.
Ça devient plus des goûters, c'est ils mangent vraiment quand ils ont faim. Dès qu'ils ont faim, ils ont besoin de manger énormément.
C'est
ils
quasiment
vont manger
un
dans l'après-midi.
Paquet de gâteaux entiers, hein, parfois.
Oui, attendez, moi, mon fils, il se fait des plats de pâtes à 16 heures. C'est pas grave, ça
des pâtes. Pas du tout, au contraire. Il faut absolument les laisser manger.
C'est qu'il en a besoin. Hein,
oui, c'est le seul moment dans la vie où il y a une dépense énergétique absolument faramineuse par rapport au reste de la vie.
J'aimerais bien revenir à l'adolescence. Et puisque l'on parle justement du goûter idéal, hein, chez les enfants et les ados, nous avons en ligne Patricia Chéropoulos. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes journaliste, enquêtrice pour le magazine 60 millions de consommateurs. Et on le disait, hein, les enfants ont tendance à se jeter aujourd'hui sur les produits sucrés à 4 heures. Et vous avez analysé des produits aux fruits et au chocolat. Sans surprise, beaucoup, beaucoup trop de sucre.
Oui, oui. En gros, on est à peu près à 14 grammes pour 2-3 biscuits, une portion en fait. Hein. Ça veut dire que ça représente 30% de l'apport recommandé par jour, qui est de 50 grammes environ. Après, évidemment, il y a des petites variations selon le poids des enfants. Donc, ce qui est effectivement beaucoup. Et pour vous dire, hein, dans notre classement, donc on a testé en fait 12 biscuits et 12 gâteaux. Ils sont tous en rouge, c'est-à-dire quasiment tous. Hein. Ils sont vraiment tous chargés en sucre. Hein. Il y a vraiment très, très peu d'exceptions. Donc, au rayon des biscuits et gâteaux industriels, c'est très difficile de trouver des
le sucre est au rendez-vous, ça, on s'en doutait un petit peu. Et d'ailleurs, le docteur Serog a dit que finalement, même chez les petits-enfants, c'était pas très grave. Si
les
jusqu'à 5 ans. S'il y avait trop de sucre. Mais quels produits, pour le coup, sont par contre peut-être à éviter? Parce que, bon, en plus du sucre, vous êtes rendu compte, je crois, que la plupart de ces gâteaux industriels, bah, ils contenaient aussi des additifs. Lesquels? Et est-ce que c'est si mauvais que ça pour la santé?
Bah, oui, donc certains contiennent jusqu'à 9 additifs. Hein. Alors, c'est notamment les gâteaux qui sont composés de différentes couches avec des crèmes, différents biscuits. Donc là, 9 additifs. Alors, certains sont plus, on va dire, inoffensifs comme l'acide citrique. Hein. D'autres, en revanche, comme les épaississants, notamment la gomme xanthane, peut en excès entraîner des ballonnements, des problèmes digestifs. Donc, si effectivement les enfants se jettent sur le paquet et mangent tous les, ingèrent tous les gâteaux, ça peut effectivement entraîner des petits problèmes intestinaux. Et puis globalement, bah, on sait que des produits trop transformés à la longue, c'est peut-être pas forcément très bon, hein, parce que les additifs, ils vont aussi en ingérer avec d'autres aliments. Donc au fil des jours et des mois, voire des années, on ne sait pas toujours ce que ça donne. Hein.
Eh bien, merci beaucoup, Patricia, d'avoir répondu à nos questions. Jean-Pierre, si on n'a pas le temps la semaine, est-ce qu'on peut instaurer le goûter le week-end? Vous dites que le goûter du dimanche permettrait aux enfants de s'échapper du long repas dominical.
Le dimanche. Je dirais, lorsque, mais c'est de moins en moins fréquent, des repas dominicaux, s'il y en a des repas familiaux, ils sont de moins en moins
longs.
Le long et pas le midi, c'est plutôt vers le soir maintenant. Donc si ce rituel perdure, les enfants vont échapper à la famille, entre guillemets, et vont pouvoir un peu piocher ce qu'ils veulent, des restes, le gâteau, etc. Le dimanche soir, je veux dire, c'est la fin d'une semaine et c'est le début d'une autre. Et il y a une sorte de rituel qui est apparu, que j'ai observé, disons, depuis une quinzaine d'années, de ce qu'on a appelé le repas dînatoire. Mm-hmm. Bon, et qui est une sorte de gros goûter dans lequel, finalement, on est sur quelque chose de très bouilli, très céréal, très, et qui, quelque part, va être encore un temps de complicité pour affronter, où on affirme l'identité familiale avant d'affronter
le lundi matin,
le lundi matin et toute la semaine de travail, où on se croisera peut-être pas de souvent. Et donc,
encore un moment de rupture,
voilà,
à
c'est
partager.
C'est encore un moment d'affirmation d'une solidarité familiale ou d'un lien social fort, même s'il se fait avec des consommations de médias superposés.
Oui. Vous voulez dire télévision?
Pas forcément, parce qu'il y a en même temps il y a les tablettes,
et les tablettes, voilà, tout c'est ça. D'accord.
C'est la télévision, c'est encore du collectif.
Hein, oui, vous avez raison.
Maintenant, on est plus sur chacun sa tablette ou son smartphone.
Bon, en tout cas, j'ai bien retenu que le goûter, c'était un moment de partage. Hein, donc
ouais,
la prochaine fois que je me bafferai, je penserai à vous. Merci à vous deux. Le goûter est-il un repas à part entière pour les enfants? On se pose la question pour eux ce matin, mais aussi pour nous qui n'apprécient pas ce petit biscuit, cette petite poignée d'amandes, ou encore quand on a un petit coup de moulin dans la journée, ça peut faire du bien, Mélanie. Alors, vrai goûter ou simple grignotage qui va alourdir la balance? On vous dit tout ce matin sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Êtes-vous des adeptes du goûter? Si oui, de quoi est-il composé, le vôtre en général? Pour en parler, nous sommes toujours accompagnés par le docteur Patrick Sérogue, médecin nutritionniste, et le professeur Jean-Pierre Corbeau, sociologue de l'alimentation. Docteur Sérogue, moi je me rappelle d'une époque qui date maintenant, quand j'étais en maternelle ou primaire, où le goûter, il était aussi à 10h le matin, je crois. Donc il y avait un petit goûter le matin, un petit goûter l'après-midi. Il avait un intérêt d'un point de vue physiologique, on va dire, pour les enfants, ce deuxième goûter, donc du matin.
Il a un intérêt pour les enfants qui ne prennent rien le matin, qui sont angoissés, qui partent à l'école et qui ne peuvent vraiment ni rien boire, ni rien manger. Ça, c'est vrai. Par contre, quand est apparu le phénomène de surpoids et d'obésité chez l'enfant, à ce moment-là, on a supprimé, parce que pour ceux qui avaient déjà mangé le matin, eh ben, ça faisait une surconsommation alimentaire.
D'ailleurs, vous parliez d'obésité, mais même sans aller jusque-là, est-ce que quand on a gardé cette habitude de prendre une petite collation à 4 heures, c'est si grave que ça à l'âge adulte, hein? On ne risque pas de perdre du poids, de prendre du poids plutôt en continuant à goûter?
Alors, quand on a à 4 heures, il y a deux possibilités. Soit on a envie de manger. C'est-à-dire qu'on a envie de manger dans sa tête. Hein. Simplement, j'ai envie de manger, mais ce n'est pas avoir faim.
Ouais.
Dans ce cas-là, on grossit. Si vous avez faim, vous le sentez dans le ventre, très nettement. Si vous n'avez pas faim, vous ne le sentez pas dans le ventre.
C'est plutôt dans la tête, par contre. J'ai l'impression que je le sens.
Vous
là.
Pourriez ne pas manger, ça ne change rien du tout.
Mais
la faim se déclenche vraiment, de point de vue physiologique, par une sensation
un peu mal,
très
ça
prégnante au niveau du ventre, et vous le sentez très bien.
Vous savez quoi, je dois vous avouer quelque chose, je crois que je le ressens jamais.
Alors, effectivement, il y a des gens qui ressentent très peu la faim.
Aïe, aïe, aïe.
Et oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il faut attendre assez longtemps pour qu'ils ressentent vraiment cette faim-là. Essayez une fois, ne mangez pas jusqu'à ce que vous ayez vraiment faim. Et vous allez voir comment vous allez vous réguler.
J'ai peur de mourir.
Mais non, mais alors comment on gère l'envie alors d'avoir faim?
Alors ça, c'est quand vous avez envie de manger, parce que vous avez décidé finalement, vous avez bien le droit de prendre un gâteau, quelque chose qui vous fait plaisir, c'est très bien. Simplement, il faut en tenir compte dans le repas qui va suivre.
D'accord.
Tout simplement.
Il faut le faire en conscience aussi.
Il faut le faire en conscience, en se disant, bon, ben voilà, je vais un petit peu diminuer des choses sucrées que je prendrai normalement à mon dîner ou au repas suivant.
Jean-Pierre, on a une idée du nombre de Français adultes, hein, j'entends, qui goûtent encore aujourd'hui. Est-ce que ça a été étudié, population ?
Alors, je me suis amusé à regarder, parce que vous m'aviez demandé avant. J'ai vraiment trouvé des enquêtes complètement folklore. Alors, je ne donnerai aucun nom. Hein. Mais ça va de 84% de Français qui goûtent encore.
Combien ?
84%. Wow. Alors quand vous regardez de près, vous apercevez que c'est 84%, puis c'est écrit en tout petit, c'est des personnes qui disent manger en dehors des deux principaux repas.
Ah, donc, c'est du grignotage.
Si vous voulez, c'est tout le problème des sondages, pour qui ça a été fait, qu'est-ce qu'on veut légitimer, etc. Il semblerait quand même que le chiffre, enfin, j'ai vraiment fait une sorte d'étude de l'existant, le chiffre le plus récent qu'on puisse retenir, c'est que 70% des Français, ce qui est énorme, 70% des Français, toutes catégories d'âge confondues, disent prendre au moins une fois par semaine.
Ça me semble correct, une fois par semaine, à goûter.
Mais c'est le seul chiffre. Ça veut dire que finalement, je dirais en clair-obscur, ça veut dire que les gens ne goûtent pas tous les jours.
C'est ça, exactement.
Dans la réponse. Mmh. Et alors, ce qui est très intéressant, parce que j'ai quand même regardé les pourcentages, ce qui n'est pas mon habitude, on s'aperçoit que les personnes âgées goûtent de moins en moins.
Ah,
donc, c'est là, dans les enquêtes à peu près sérieuses sur le grand âge, on s'aperçoit que le goûter est quelque chose, quand les gens sont à domicile, est quelque chose qui disparaît, peut-être au bénéfice de ce qu'on a évoqué à l'instant, c'est-à-dire de petits snacking dans la journée et de choses comme ça, c'est-à-dire du grignotage.
Et ben justement, on connaît plein de personnes qui mangent en continu des noix, des amandes, des fruits secs, mais tout au long de la journée, c'est un peu comme un goûter en permanence. Vous en pensez quoi, vous ?
Ah oui, ça
on en a dans l'équipe, on en a un notamment.
Qui boulotte toute la journée.
Qui grignote, oui. Et ça pose un certain nombre de problèmes, parce que chaque fois que nous mangeons, nous sécrétons l'insuline. Donc, finalement, on va avoir peu à peu une sorte d'hyperinsulinisme que l'on entraîne. Hein, c'est un phénomène d'entraînement. Alors, certaines personnes le supportent très bien et d'autres beaucoup moins bien. Et certaines prennent du poids, d'autres ont même des effets métaboliques, une augmentation de la glycémie, sans aller jusqu'au diabète, mais on voit des perturbations qui s'installent. Donc, il faut faire attention. Mmh. Tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité.
Bon, moi, je connais un certain Roman Dordor, qui goûte bien, mais qui n'a pas du tout de surpoids, par contre. Alors, c'est possible de goûter, d'être normalement
pondéré. Oui, on peut ne pas avoir de surpoids.
Quoi.
C'est ce que j'ai dit. Il y a certaines personnes qui le supportent très bien. Oui. Mais même si on ne prend pas de surpoids, il faut quand même se faire un bilan sanguin de temps en temps pour vérifier qu'il n'y a pas de perturbations liées à cette consommation itérative.
Et ça veut dire que ces gens-là, ils doivent peut-être moins dîner le soir que d'autres.
Alors voilà, dînent-ils moins?
Je ne sais pas, on l'interrogera.
Et dites-moi,
la question.
Docteur Serroc, je crois qu'il y a eu une expérience en Belgique qui a montré qu'en supprimant ce quatrième repas, donc ce goûter chez les goûteurs habitués, leur poids avait tendance à grimper. Comment ça peut s'expliquer?
Alors, j'ai regardé cette étude, elle ne me paraît pas extrêmement sérieuse, puisque m'avait envoyé avant. Mais par contre, j'ai réfléchi au phénomène suivant, c'est que lorsque vous ne prenez... Si vous vous privez de goûter,
Alors vous en avez envie et l'habitude.
Il est possible que vous augmentiez à ce moment-là
le dîner, par exemple.
Le dîner, votre ration alimentaire au dîner.
À cause de la frustration du non-goûter, quoi. C'est
ça. Voilà, si vous le faites volontairement, oui.
Est-ce qu'il y a des différences de goûter, Jean-Pierre, entre régions? Moi, je me souviens que dans le sud de la France où je suis née, ma grand-mère, elle avait tendance à nous faire une tranche de pain avec de la tomate et de l'huile d'olive, quasiment un pan con de tomate au goûter. Quand j'allais chez elle, c'était comme ça. Il y a des différences très fortes comme ça en France, par exemple.
Les produits utilisés vont varier selon les régions françaises.
Bon, y a eu on s'inspire de ce qu'on a dans l'agriculture locale.
Par rapport aux graisses qui sont employées, par rapport au type de pain qu'on va manger, par rapport au fait qu'on mange plutôt salé ou plutôt sucré selon les régions. Donc tout ça après. Mais c'était très facile à voir et à constater tant qu'on était dans une France qui était encore marquée vraiment par la ruralité, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Et donc, c'est tout le problème des produits régionaux, qui sont des produits qui maintenant sont marketés, qui sont des très bons produits régionaux qui peuvent se faire, mais qui, quelque part, sont des maintiens, entre guillemets, artificiels de ce qui existait réellement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et jusque dans les années 80.
Alors on a une question de Sonia pour vous, Patrick, sur Instagram. Elle dit « Je me suis mise au régime intermittent. Je mange uniquement le midi et le soir à 19h. Et si je prends un goûter, est-ce que vous ne pensez pas que ça fera trop de repas en peu de temps? Est-ce que mon estomac a le temps de tout digérer, 3 repas en 7 heures ?»
Alors, il faut savoir que la digestion est très longue, contrairement à ce que l'on croit. On met environ 36 heures pour digérer les aliments que l'on mange. Donc vous voyez qu'en fait, notre estomac est souvent rempli, en tout cas, puisqu'on va manger 3 fois par jour. Donc ça ne changera rien. Mmh. Si elle prend son goûter dans l'après-midi, si elle en a envie, si elle a faim, peut-être que ses repas sont plus petits et que donc elle a besoin de ce goûter-là pour pouvoir se sustenter.
Donc en termes de digestion, c'est pas un problème.
En termes de digestion, c'est absolument pas un problème.
Et j'en profite avec une dernière question d'Aurélie à Marseillan sur Facebook qui dit « Mon fils de 6 ans m'a dit que certains de ses amis à l'école avaient pour goûter une carotte et des concombres.
Oh, les pauvres.
Et du coup, ces enfants-là lui piquaient ses gâteaux. Est-ce que c'est un bon goûter selon vous que ses parents infligent à leur enfant ?
La preuve que non, puisque les autres ont piqué les gâteaux. Ils sont très frustrés. Donc c'est pas, non, c'est certainement pas un goûter, dirons-nous, classique et peut-être très apprécié.
Il y a un risque avec les enfants de les priver de gâteaux comme ça, parce qu'il y a des parents qui sont hyper sévères sur ces choses-là.
Il y a un risque de trouble du comportement alimentaire lorsqu'on est très sévère avec les enfants, et ils vont essayer de détourner, et c'est bien normal les choses. Mais en général, ils se débrouillent bien, donc ça ne pose pas trop de problèmes.
Bon, et puis les crêpes, ça peut se faire soi-même, on n'est pas obligé d'acheter des produits industriels.
Ah, mais bien sûr,
et puis des crêpes au concombre, c'est très bon.
Avec une carotte.